ce virus n'a pas le choix entre le bien et le mal, se trouve complètement submergé par les entités négatives de la pensée humaine, par les formes pensées négatives humaines, par les décharges d'énergie négative humaine. Et ce virus, lorsqu'il va rentrer dans le corps, en ayant cette charge complètement négative, et lorsque l'on sait que les formes pensées ne sont pas que des formes pensées, mais que ce sont aussi des créatures, car lorsque vous pensez, vous ne créez pas simplement un rayonnement, vous créez un personnage. Cela, je vous l'ai déjà expliqué. Et ce personnage, s'il rencontre 10 000 ou 100 000 autres personnages, eux-mêmes issus de la même pensée négative des autres hommes, ces personnages alors deviennent forts entre eux, composent ce que l'on appelle un égrégore, et ils se rechargent à travers d'autres égrégores, eux aussi inférieurs, et ils deviennent des entités pouvant vivre et vous harceler, vous embêter, vous polluer. Donc, que sont les virus? Ce sont des particules d'énergie, des petites entités semi-conscientes, exactement comme vous-même, vous êtes semi-conscient quand vous volez comme des petits globules dans l'univers. Mais ce sont des particules qui n'ayant pas le choix entre le bien et le mal, ramassent tout ce que les hommes pensent. Et lorsqu'une humanité, par millions et à travers les âges, pense mal, fait le mal, tue, assassine, viole, vole, il est normal qu'un beau jour une forme pensée devienne plus précise qu'une autre, plus puissante qu'une autre, et s'accapare ces atomes, ces petites entités. Et cette forme pensée devenue une entité à part entière, devenue donc un individu, même si elle est invisible, elle est devenue un individu, et un individu puissant, qui arrive à conquérir sa propre évolution, exactement comme un homme, à ce moment-là, ayant acquis un peu de puissance, cette entité arrive à diriger la forme. Et c'est là où elle s'approprie des atomes et où elle déclenche des virulences, où elle déclenche la maladie, et que cette maladie puisse ensuite être portée par les virus ou les microbes. Mais détruire les virus et détruire le microbe n'en vient pas à détruire la maladie. Car s'il y a bien un microbe sur Terre, ce n'est sans doute pas le microbe connu, c'est l'homme. Le vrai microbe, c'est l'homme, car c'est lui qui fabrique toutes ces formes pensées, qui à leur tour deviennent puissantes, qui à leur tour prennent domination sur les petites entités, qui ne sont là que pour faire respirer la vie, animer la vie. Ils ne sont là qu'en attente pour devenir des formes de vie supérieures à travers, par exemple, une fleur, un minéral, l'eau d'une source. C'est exactement la même chose. L'entité qui peut devenir une source bienfaisante, si elle est prise à la base et qu'elle est manipulée par une forme malfaisante, eh bien, cette particule va devenir un virus. Et un virus qui va transporter les maladies. Donc, en pensant mal, en agissant mal, l'homme sabote à la base la source même de la vie. Et automatiquement, il se crée une vie empoisonnée. Imaginez un homme qui habite dans la plaine. Et pour embêter son voisin, qui est juste à côté de lui, dans la plaine aussi, il décide de polluer le ruisseau qui tombe depuis la montagne et qui sort en une fontaine au centre du village. Alors il se dit, pour l'embêter, comme je n'ai pas d'autre moyen, je vais monter dans la montagne. Puis je vais vider des poisons dans le ruisseau. Et comme ça, l'eau qui tombera de la fontaine sera empoisonnée et mon voisin sera très embêté et fort malin. Le problème, c'est que le soir, lorsque le paysan descend dans la plaine, et qu'il va lui-même chercher l'eau dans la fontaine, et qu'il la boit, il va être autant empoisonné que son voisin. L'homme fait la même chose avec la vie. En pensant mal, en agissant mal, automatiquement il pollue, il empoisonne les particules qui sont à la source même de la vie. Il n'est donc pas étonnant qu'ensuite, au cours de la vie, il rencontre des choses affreuses, comme la maladie, comme la mort. Mais le pire dans la maladie, c'est que s'il n'y avait que ceux qui ont créé cette forme, créé cette pollution qui devenait victime, ce ne serait que châtiment et quelque part, ce serait juste. Mais le problème, c'est que lorsque l'on rend un virus assez fou pour devenir quelque chose d'infectieux, quelque chose de préjudiciable à l'encontre de la santé de l'homme, eh bien ce virus, lui, comme il n'est pas conscient, il va taper à toutes les portes. Il ne va pas se diriger uniquement vers celui qui l'a formé, ou vers le groupe humain qui l'a formé. Il va se répandre partout, et même chez les innocents, et tout le monde peut mourir. Et cela se passe ici. Tout le monde se trouve en danger. Tout le monde se trouve attaqué. Alors que faut-il faire? Si l'on n'est pas grand médecin, si l'on n'est pas grand guérisseur pour intervenir à ce moment-là, eh bien, il faut d'abord être bon disciple et essayer par ses pensées de ne pas favoriser la construction ou la maintenance de tels égrégores. Et puis, il faut avoir des pensées positives, comme je vous l'ai déjà dit mille fois, comme je vous l'ai déjà demandé si souvent. Constituez des endroits où vous allez prier, méditer en groupe et en commun pour envoyer l'énergie partout de façon à contrebalancer ces égrégores négatifs et à les brûler pour que les hommes vivent libres. Réunissez-vous, priez ensemble, méditez ensemble, même si vous n'êtes que trois, peu importe, si vous êtes 15, c'est très bien, mais même si vous n'êtes que trois, peu importe, même si vous êtes seul, vous n'êtes pas tout à fait seul, parce qu'à l'instant où vous méditez, il peut y en avoir 10 autres dans le monde aussi qui se mettent à méditer, et automatiquement vous trouvez, quel que soit votre rayon, raccordez les uns aux autres. L'important, c'est que vous ayez tous la même pensée. C'est pourquoi il est nécessaire, à travers les âges, que les maîtres envoient des religions communes. Des religions, donc, pour les nations. Même si après, à l'intérieur de cela, par évolution, l'homme se détache de sa religion pour amorcer un chemin de libération personnelle. En attendant, il est très important de concentrer les masses humaines pour créer des égrégores positifs, pour contrebalancer les égrégores involutifs et négatifs. Et comme cela, la vie peut avoir lieu. Il est très important aussi de travailler avec, par exemple, des mantras communs, ou des invocations communes, ou des prières communes, et de ne pas faire chacun sa petite invocation, sa petite prière. Cela est très bon lorsque vous vivez une relation directe avec votre Dieu, avec votre maître. Donc, vous décidez que votre méditation est un acte personnel qui vous vise, vous, votre âme et le maître que vous allez atteindre. Mais quand vous voulez prier pour le monde, alors là, utilisez quelque chose qui utilise d'autres disciples, d'autres initiés que vous ont donné les maîtres. Comme ça, le réservoir d'énergie va grandir et à force d'être grand, il sera dominant et le royaume sera sur la terre. Réunissez-vous. Vous avez commencé en me demandant comment être meilleur télépathe, meilleur disciple, comment concrétiser ou poursuivre une relation intuitive avec moi, avec nous. Eh bien, je vous dirai que cela ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez rien construire vis-à-vis d'un maître si le maître lui-même ne construit vis-à-vis de vous. Ce n'est pas vous qui montez et qui décidez d'un pont ou d'un plan. C'est le maître qui accepte d'être l'endroit où vous allez fixer vos amarres, où vous allez fixer votre pont, d'être l'endroit où vous allez pouvoir tirer l'énergie parce que vous allez la tirer en lui. Et si vous voulez représenter ce point d'intérêt, donc ce point où le maître a intérêt de faire sacrifice de lui-même, parce que venir vous parler, c'est un sacrifice, vous envoyez des énergies pour que vous guérissiez des hommes, c'est un sacrifice. C'est toujours un sacrifice qu'il faut descendre vers le bas. Mais ce n'est pas un sacrifice qui nous coûte si nous voyons que l'homme essaie de faire le bien avec la même impulsion que nous, par amour. et pas par folie, égoïsme, prétention, gloire ou je ne sais quoi d'autre. À ce moment-là, on ne descend plus, le prix est trop cher pour animer la folie d'un être. Donc, pour développer une relation avec nous, il ne faut pas décider que vous allez être en relation avec nous et que vous allez vous épurer. Faites quelque chose d'utile. Et si vous faites quelque chose d'utile, en plus de la purification que vous opérez sur vous, en plus de l'état de disciple que vous essayez d'obtenir, même si vous êtes maladroit, peu importe. Mais si vous faites quelque chose d'utile, automatiquement, le maître descendra sur vous, même si vous n'êtes pas prêt. Et il vous fera faire des choses qui vous dépassent et même pour lesquelles vous n'étiez pas prévu. Parce que vous représentez un endroit, enfin un point, où la grâce de Dieu, où l'énergie des maîtres, où l'esprit des maîtres peut s'exprimer. Enfin, il est donc normal que le maître à ce moment-là utilise tout son espoir, toute son énergie, tout son amour pour faire quelque chose pour les autres à travers ce point que vous vous représentez. Soyez utile. Il y a des millions de disciples à travers le monde. Je vous le dis, la terre n'est pas en si mauvaise posture que ça. Il y a des millions de disciples, mais que font-ils? Ils vont simplement gagner leur vie. Et ils se disent, je crois en Dieu, je crois dans les maîtres. Ils ont le portrait des maîtres partout dans leur maison ou dans leur cœur. Et que font-ils vraiment pour les maîtres? Rien. Ils croient dans les maîtres. Et qu'en pense le maître? Le maître, il se dit, je n'en ai rien à faire, que l'on croit en moi. Qu'est-ce que cela représente comme vérité dans le cosmos? Je vous le demande. Qu'est-ce que cela représente? Qu'il y ait une poignée d'hommes qui croient en moi, qui me fait la faveur de croire en mon existence, qui me fait la faveur de penser régulièrement en moi, qui me fait la faveur aussi de me prier pour que j'arrange leur vie, pour que j'arrange leur chakra, pour que ces petits agneaux puissent voir les devas. Le maître se dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? Ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que j'ai à faire de la considération de cet homme qui reste petit, étroit dans sa vie, alors que des millions d'autres hommes sont en train de mourir de faim ailleurs sur la planète, alors que des millions d'autres hommes sont en train de mourir de maladies et que des dizaines d'entre eux sont dans des hôpitaux et qu'ils sont seuls. Et que personne ne pense à aller leur tenir compagnie. Même si l'on sait qu'ils sont condamnés, ce n'est pas pour autant qu'ils sont le rebut de la société. Ils sont encore vivants et il faut aller les voir. Pourquoi ne pas leur donner un peu d'amour, un peu de considération? Alors entre le disciple qui croit en Dieu, qui connaît tout à propos de Dieu, qui vénère les maîtres, et celui qui éventuellement ne croit pas en Dieu et qui même se dit contre Dieu, mais qui au moins essaye de nourrir ses frères, de soulager ses frères. Entre ces deux-là, lequel croyez-vous que le maître choisira? Le maître ne va pas choisir celui qui croit en lui. Le maître va choisir celui qui, tout en ne croyant pas en lui, fait quand même quelque chose pour lui et selon sa loi. Celui-là, il sera choisi. C'est pour cela que sont, aux yeux des maîtres, plus grands initiés, ceux qui sont des humanistes, plus que ceux qui sont en fait ésotéristes, et qui ne font rien, et qui sont là simplement pour gagner leur vie, faire pousser leurs enfants, et rien d'autre. Un humaniste, aux yeux d'un maître, est un initié. Un ésotériste est un débutant, pâle, maladroit, vulgaire, qui essaye de s'approprier la vérité avec des mains sales, visqueuses et offensantes, parce qu'il transforme tout, parce qu'il va tout mal interpréter. Il lira ce qui est écrit dans le livre et il comprendra quelque chose de complètement différent. Et avec le peu qu'il a compris, il jugera les hommes. Ce qui fait que lorsqu'il verra par exemple un aveugle, il dira au Messie, celui-là est aveugle, c'est bien parce qu'il l'a mérité. C'est sans doute le karma. Et ainsi, dessous de connaissance vont faire de cet homme, non pas un ange d'amour, mais un monstre d'horreur, un monstre de vanité, un monstre de froideur, d'intolérance. Approchez-vous des humanistes. N'écoutez pas les ésotéristes. Approchez-vous des humanistes. Regroupez-vous tous autour des humanistes. Car je vous le dis, ce qui va persister pour l'entrée dans l'ère du Verseau, ce ne sont pas les écoles ésotériques. Cela, je l'ai déjà dit et je le répète. Elles vont toutes s'écrouler, périr, mourir, et de morts plus affreuses les unes que les autres, avec des scandales à la clé, que ce soit des scandales financiers, sexuels ou autres. Tout va être détruit, mais ce qui va rester, c'est ce qui est en fait le meilleur sur Terre. Toutes les organisations humanitaires, tout cela va rester. Et c'est dans cet endroit-là que va être donnée la pulsion spirituelle, que vont être enfilés en quelque sorte les disciples. Et c'est à cet endroit-là que ces disciples vont instituer un ordre ésotérique, un ordre religieux. Parce qu'il n'y a plus à l'heure actuelle sur la planète, il n'y a plus que dans ces endroits humanitaires où l'on rencontre un peu quelque part quelque chose de vrai. Ce n'est plus dans les temples, ce n'est plus dans les églises, ce n'est plus dans les monastères, il n'y a plus rien de vrai. Les gens se servent du peu de connaissances dont je vous ai parlé pour juger, pour se fermer, pour annoncer à grands coups de canon et de voix l'apocalypse que vous, méchants humains, vous avez mérité, et qu'à cause de vous, puisque eux, humains, sont incarnés, ils vont devoir supporter. Alors pour survivre quand même, ils s'inventent un dieu qui viendra en soucoupe volante et qui viendra les prendre. Ou bien ils s'inventent un dieu qui ne fera basculer la terre que d'un tout petit centimètre de façon à ce que la montagne où il réside persiste. Parce qu'ils ne veulent surtout pas manger le pain noir avec vous, parce que c'est à cause de vous que ce pain noir arrive. Ce n'est pas à cause d'eux. Eux, ils sont moines, ils sont grands ésotéristes, grands méditants, grands yogis. Et ils ne veulent surtout pas mettre les mains dans la boue avec les autres hommes. Surtout si cette boue, il faudra la manger. Par contre, que fait l'humaniste? Que fait l'homme humanitaire? Il se dit, bon, il n'y a peut-être pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, tant pis, on est sur la terre quand même. Et même s'il y a un Dieu et que je pense qu'il nous a abandonnés, tant pis pour mon angoisse. Je vais faire quand même. Puisque je suis médecin, eh bien je vais créer une organisation pour aller soigner tous les gens qui existent dans le monde et qui ont besoin de soins. Puisque j'ai de l'argent, eh bien je vais créer des sociétés qui vont s'occuper des pauvres et des orphelins et des gens en transit dans la société, des gens en chômage. Puisque j'ai un peu de psychologie, eh bien moi je vais le mettre au service de la libération de l'homme pour qu'il se défasse de ses complexes, pour qu'il se défasse de tous ses problèmes. Puisque j'ai un peu d'amour, eh bien moi, chaque mercredi, je vais écouter ma voisine, parce que je sais qu'en ce moment, elle n'est pas bien du tout. Elle a beaucoup de problèmes. Alors je vais lui faire la joie de la comprendre, et je lui apporterai chaque fois un gâteau ou une fleur. Chaque fois que vous avez quelque chose à donner, donnez-le de cette façon-là, pour faire partie du groupe des humanistes. Car je vous le dis, il n'y a plus que cela de vrai à l'heure actuelle. Ce n'est plus dans les temples que l'on rencontre Dieu. À l'heure actuelle, on rencontre Dieu dans les mouvements humanitaires. Donc adhérez. Faites quelque chose, soit vous-même pour les autres, soit en entrant dans un groupe. Adhérez et essayez d'être utile aux autres. Et en étant utile aux autres, au grand mouvement qu'est la vie, automatiquement, vous allez attirer l'énergie du maître. Parce que vous ne pourrez rien faire si cette énergie n'est pas là. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus proches des maîtres, même s'ils ignorent complètement les maîtres et que même ils renient leur présence, ce sont les êtres humanitaires. Ils sont constamment dans la présence du maître, parce que le maître est là. Le maître veut sauver les âmes. Le maître veut nourrir tous les Africains qui meurent de faim. Le maître veut nourrir tous les autres hommes de la terre qui n'ont pas assez à manger, qui ont froid. Le maître veut instruire tous les êtres de la terre qui ont l'esprit trop étroit et qui ne savent pas comment interpréter Dieu. et la force de la vie et les formes de la vie. Ne soyez pas en fait ni bon disciple, ni bon yogi, ni bon ascète, ni bon méditant. Soyez un homme. Un point, c'est tout. Mais pour être cet homme-là, il faut redécouvrir toute la noblesse qu'il y a dans l'humanité. Et il faut quelquefois participer à la souffrance du monde. Beaucoup de disciples se disent, eh bien, pour être un parfait disciple, je ne veux plus rien éprouver. Et ils ne sont plus capables même de souffrir. Et lorsqu'ils voient leurs voisins être prisonniers d'une détresse, ils jugent que cette détresse est trop astrale, alors ils ne s'occupent pas de leurs voisins. Ils se disent, bon, quand celui-là aura terminé avec sa folie, il s'arrêtera. Moi, je ne m'occupe que des gens qui sont sur le plan mental. Moi, je n'ai que des amis du plan mental. Et entre gens de bonne compagnie sur le plan mental, nous discutons très sérieusement de Dieu et des anges. Et mon voisin, pendant ce temps, se plie en deux parce qu'il a mal. Mal au ventre tellement il pleure. Mal au ventre parce qu'il est prisonnier. Parce qu'il n'a plus l'être qu'il aime. Mais celui qui est sur le plan mental, une histoire d'amour, cela ne l'intéresse pas. Il se dit, oh, cet être-là est beaucoup trop petit, il n'est pas assez évolué, comment est-ce que je vais pouvoir m'en occuper? Ce n'est pas mon degré, c'est la vie qui doit s'en charger. Eh bien, tout plan mental qu'il soit, cet être-là n'est rien du tout aux yeux d'un maître. Il est même la honte du maître, la honte de la connaissance, la honte de la sagesse, la honte de la lumière. Il est la honte. Avoir un cerveau, une intelligence capable de comprendre les choses divines pour en faire un tel exercice, mais c'est une honte. Il vaut mieux que tu ne saches rien, mais que tu sois encore un homme. Même si éventuellement être un homme, quelque part, c'est encore souffrir. Mais il y a quelque chose de beau dans la souffrance. Il y a d'abord la communion avec tous les autres hommes qui souffrent, même s'ils souffrent à cause de leurs bêtises, mais au moins tu peux les comprendre. Et au moins tu es vivant autant qu'eux et tu vas essayer, de la même pulsion qui les fait souffrir, tu vas essayer de façon positive à les instruire, à les faire changer pour qu'ils ne souffrent plus. Mais si tu n'es pas capable de vibrer, que vas-tu comprendre, notamment à leur souffrance? Mais que vas-tu comprendre à ce que tu dois leur dire pour qu'ils ne souffrent plus? Vous serez comme deux extraterrestres qui se rencontrent et qui n'ont rien à se dire. Salut! Mais si tu es humain, humain tout autant que l'autre, et si tu retrouves la particule de noblesse, de l'état humain, automatiquement tu vas pouvoir souffrir comme lui, mais sans rester dans la souffrance. Souffrir comme lui pour le comprendre et apporter une énergie qui va pouvoir descendre jusqu'à lui. Et pourquoi tu vas souffrir? Est-ce que tu vas souffrir parce que tu vas le voir pleurer, que cela te fait pleurer? Non. Tu ne vas pas pleurer parce qu'il pleure. Tu ne vas pas pleurer à cause de son chagrin d'amour. Ce n'est pas cela la souffrance. Ce n'est pas cela être juste non plus vis-à-vis de l'autre. Mais tu vas souffrir parce que l'ayant profondément compris, tu vas vouloir l'aimer pour qu'il s'en sorte. Et dans cet acte de descente, de chute vers lui jusqu'au niveau où il expérimente sa peine, toi tu vas souffrir. Donc tu ne vas pas souffrir de la souffrance dont il souffre et qui est bête et de laquelle tu ne veux pas, tu as raison. Mais dans la descente qui va t'amener vers lui, pour lui apporter ta compréhension, ta patience, une énergie, là oui tu vas souffrir. Car l'endroit où lui vit, ce n'est pas ton niveau. Et puisque tu dois descendre, tu vas souffrir. Descendre dans la matière des autres, ce n'est jamais facile. C'est pour cela d'ailleurs que, cycliquement, les prophètes ne sont utilisés qu'un temps. Parce qu'on ne peut pas tout le temps leur demander de descendre, de descendre, de descendre. Ils ont droit aussi à travailler pour eux-mêmes. Donc, je ne te dis pas que tu dois souffrir la souffrance de l'autre. Mais tu dois être capable quelque part de t'ouvrir à cette souffrance pour que tu puisses accepter. fait la descente vers l'autre pour lui apporter une énergie. C'est cela que fait le maître. C'est pour cela que je vous dis tout à l'heure, mais venir vous parler est une souffrance. Rester là pour vous aider, c'est une souffrance. Rester là pour perpétuer votre vie, votre corps physique, tout ce qui existe et le plan d'évolution, c'est un sacrifice. Alors je ne vous dis pas que vous devez nous louer très haut et très grand parce que l'on se sacrifie. On ne veut absolument pas de ce remerciement. Nous ne faisons pas cela pour être remerciés ni pour être admirés. Simplement je dis, si quelque part vous avez une quelconque, si petite soit-elle, une quelconque considération pour notre sacrifice, au lieu de nous remercier en gens de bons salons et de bonnes compagnies, et en disciples bien affirmés, qui sait que le Christ se saigne pour l'humanité. Participez vous-même à ces sacrifices. C'est la meilleure façon de nous montrer votre compréhension, la meilleure façon de déclencher une relation avec nous, et c'est la meilleure façon de nous remercier. Ce n'est pas en sachant que nous nous sacrifions, et en quelquefois en ayant de la peine pour nous, et en disant « Ah, qu'ils sont courageux, les maîtres, quand même, ils restent là pour que l'on existe. Quel courage, quelle patience, ils sont fabuleux, ils sont fantastiques. » Tous ces bruits-là nous cassent les oreilles. Vous nous énervez, vous nous agacez avec ces remerciements de pacotille qui ne valent rien. C'est comme la flatterie trop sucrée d'un homme qui ne sait pas comment s'en sortir pour obtenir les grâces d'un voisin. Cela nous fait le même effet. Ne dites rien, ne pensez rien, ne croyez rien, mais agissez. Faites du bien, rentrez dans le jeu, participez au même sacrifice que nous. Si vous voulez être comme nous, alors commencez comme nous à vous sacrifier quelque part. Vous voulez tous devenir des maîtres. Très bien, vous avez le droit car c'est votre destin. Mais vous n'allez pas être des maîtres parce que vous allez travailler à devenir puissant, parce que vous allez travailler à devenir clairvoyant, parce que vous allez tous les jours vous enfermer pour méditer 3 heures. Ce n'est pas cela qui fait le maître. Ce qui fait le maître, c'est que vous allez faire comme le maître. Et qu'est-ce qu'il fait le maître? Il se sacrifie. Il aime les autres. Il tient le plan d'évolution. Il veille à ce que chacun comprenne ce qu'il doit comprendre, à ce que chacun aille où il doit aller pour recevoir ce qu'il doit recevoir. Il veille sur tout son petit monde et il dose, il pèse, il mesure. Il ne se repose jamais. Bien sûr, quelque part après, la méditation sera une exigence. Bien sûr, quelque part après, les pouvoirs viendront. Mais ce n'est pas ça le but et ce n'est pas ça qui fait aller vers Dieu. Ce qui fait aller vers Dieu, c'est en étant comme Dieu. Et être comme Dieu, c'est être ce grand sacrifice. C'est être cet amour disponible. C'est être cette capacité à aider les autres. Et à croire que aider apportera un jour du fruit. À ne pas s'asseoir dès la première tentative en se disant « Mais je n'ai pas réussi à le convaincre, c'est foutu !» Et puis moi, je ne suis pas un bon instructeur. Et de toute façon, lui était trop pris dans le profane. Pour être comme le maître, il faut avoir le même acharnement que le maître et savoir qu'un jour, cela apportera du fruit. Et qu'un jour, le royaume existera, qu'il sera là parce qu'il est déjà là. Ce n'est que la mauvaise volonté humaine qui l'empêche d'être là. Alors si vous n'avez pas foi en vous, en votre capacité à être bon pédagogue, à savoir bien parler, à savoir convertir ou quoi que ce soit d'autre. Ayez foi au moins dans le royaume. Ayez cette vision. Regardez le royaume. Chaque fois que vous allez vous endormir le soir, pensez au royaume. Et dites-vous, demain, je vais, de quelque manière que ce soit, je vais essayer de faire arriver ce royaume, que ce soit en parlant, que ce soit en pardonnant, que ce soit en aidant quelqu'un, que ce soit en allant voir un malade. Je vais fabriquer quelque part la brique de ce royaume. Parce qu'en mettant chaque jour une brique, eh bien, j'aurai fait un mur. Et si des millions de gens comme moi à travers le monde font des briques, font des murs, en quelques générations, le royaume sera là. C'est pourquoi il faut vous regrouper. Regroupez-vous. Faites des choses humanitaires. pu aller dans les temples pour vous instruire, mais n'y restez pas pour évoluer, car je vous le dis, là n'est plus la voie d'évolution. Là est la voie de perdition, des vaniteux, des bons à rien, qui ne veulent pas lever le petit doigt pour l'humanité. C'est dans les organismes, soi-disant ésotériques et occultistes, que l'on rencontre le plus de fainéants qui existent sur la Terre. Parce qu'il s'agit de quoi dans ces groupes-là ? D'amener simplement sa cervelle, on s'assoit sur une chaise et on parle, et on parle. Et de quoi on parle ? De Dieu, bien sûr. Et parce que l'on parle de Dieu, l'on se croit fort intelligent et choisi et élu. Mais l'on ne fait que parler. Et la chaise, elle est là, figée. Si donc, vous voulez appartenir véritablement aux gens qui intéressent les maîtres, si vous voulez être authentique quelque part, ne plus vous mentir à vous-même. Prenez dans le temple ce que le temple peut vous donner, c'est-à-dire la connaissance. Et armé de cette connaissance et des quelques énergies dont le temple dispose, allez droit vers les organisations humanitaires. Apportez votre aide ou soyez vous-même une organisation humanitaire ambulante. Allez dans les hôpitaux, pas forcément pour soulager les malades si vous n'êtes pas guérisseur, mais pour leur tenir compte.